Monde Noir, deuxième partie.
Suite et fin. Et où on va vous parler d'un livre qu'on a adoré. Là, c'est, on parle souvent, on a un peu galvaudé le mot coup de cœur, mais là, ce livre-là, on va vous en parler un peu tous les deux, parce qu'on l'a lu tous les deux, et c'est vraiment un roman qui nous a enthousiasmés. C'est pas le premier de cet auteur, Gianrico Carofiglio, mais, et j'espère que ce sera pas le dernier d'ailleurs, mais c'est certainement un des meilleurs. Ça s'appelle « Les raisons du doute ». Ça vient de paraître chez Seuil Policier et c'est un roman traduit par Nathalie Bauer. Alors, une des raisons pour lesquelles ça, ce livre nous a plu, c'est peut-être parce qu'on retrouve Guido Guerrieri, l'avocat, qui est le personnage récurrent de Gianrico, dont on a fait la connaissance dans Témoins involontaires, il y a quelques années.
Voilà, c'était vraiment un livre qui, déjà qui nous avait scotché par le ton.
Par le ton, c'était un livre qui il a changé d'éditeur, d'ailleurs il était chez Rivage Noir. Donc Guido Guerrieri, ce personnage, est avocat à Bari. Je suppose que vous êtes comme moi, vous savez pas où ça se trouve en Italie. J'ai été voir pour vous, c'est au bout de la botte, côté Adriatique, c'est dans la province des Pouilles,
voilà, c'est au bord de la mer. C'est en haut du talon de la botte.
Il était alors dépressif dans ce livre Témoin involontaire. Au fil du roman et au fil des livres, il avait remonté la pente. Et d'ailleurs, dans le dernier, il vivait une histoire d'amour avec Margherita. Patatras, malheureusement, dès le début de son nouveau roman, Margherita part travailler aux États-Unis. On sent bien que l'histoire est terminée.
S'il veut une Margherita, il n'aura plus qu'à prendre une pizza.
Oui, d'accord. Ou peut-être un cocktail aussi, Jacques. Voilà. Je peux continuer, je peux avancer dans la narration, merci.
Il faut dire qu'il en abuse pas mal des pizzas dans le roman, c'est pour ça que je disais ça.
C'était d'accord.
C'était pas complètement...
Donc, je suis comme le personnage, complètement déstabilisé. Et c'est à ce moment-là que le personnage, que Guido, complètement déstabilisé, comme j'aime bien de le dire, j'essaye de retrouver mon sérieux, va être appelé par un client emprisonné. Le problème, c'est qu'il reconnaît ce prisonnier. Il s'appelle Fabio Paolicelli, mais lui, il l'a connu il y a quelques années, il y a même bon nombre d'années, avec un surnom. Il s'appelait Paolo Reban, vous imaginez, il avait toujours ses lunettes sur la tête, un espèce de facho. Et Guido, il s'est battu dans son jeune temps, puisque lui, il était de l'autre côté, et il l'a vu commettre, si ce n'est un meurtre, tout au moins des exactions assez dégueulasses. Bien sûr, Paolicelli clame son innocence et il lui explique comment, à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, il aurait transporté de la drogue. Dans sa voiture, oui. Il revenait de vacances et la drogue est planquée dans la voiture. Les flics l'arrêtent, ils trouvent la drogue. Paolicelli se retrouve en prison. Donc, notre avocat, là, gros doute. Comme chacun de ses clients, à chaque fois. C'est le propre d'un avocat de ne pas vouloir savoir ou de croire en leur innocence ou de savoir qu'il est coupable, mais de toute façon de le défendre quand même. Donc Guido, là, il doute encore plus. Peut-il défendre un homme dont il est persuadé l'avoir vu commettre un meurtre dans sa jeunesse? Mais d'un autre côté, la rédemption, c'est un des thèmes chers au polar. Et si Fabio s'était amendé et qu'il était vraiment innocent? L'avocat est devant un vrai cas de conscience. Et surtout, lorsqu'il va rencontrer la femme de Paolicelli, à un nom plutôt bizarre pour une femme d'Italien, puisqu'elle s'appelle Natsu Kawabata, je vous laisse imaginer son origine, et elle est belle comme le jour, et évidemment, il va tomber amoureux. On n'a plus un cas de conscience, mais deux cas de conscience. Paolicelli, quand il accueille Guido dans sa prison, il lui dit « On m'a dit que vous êtes un type bien ». Cette phrase, elle va hanter Guido Guerrieri tout le long du roman, car c'est vraiment un honnête homme et il ne veut absolument pas laisser ses propres sentiments influencer son jugement et son travail. Dans une profession comme la sienne, d'ailleurs, peut-il en être autrement? L'auteur, Gianrico Carofiglio, il est juge anti-mafia, en Italie évidemment. Et l'on sent qu'il connaît la machine justiciaire parfaitement. D'ailleurs, par le biais d'un personnage secondaire, il évoque son métier. Alors par contre, je vais vous demander deux minutes parce que j'ai oublié de trouver la page. Donc heureusement, une magnifique petite marque-page. Voilà. Voilà comment il parle de son métier. Depuis combien de temps vis-tu à Rome? Depuis trop longtemps, j'en ai plein les bottes. En particulier, j'en ai plein les bottes du boulot de l'antimafia. Nous passons notre temps à arrêter trafiquants et dealers, à dépenser des centaines de milliers d'euros en écoute téléphonique, à interroger des repentis ou des pseudo-repentis, et rien ne change. Je devrais me trouver un travail honnête. Voilà comment Gianrico parle de son boulot de juge. On sent donc qu'il connaît la machine judiciaire parfaitement. Ce qui est remarquable dans ce roman, on l'avait déjà évoqué avec Témoin involontaire, c'est la justesse de propos, des propos quand il nous fait part des pensées, des doutes, des inquiétudes, des angoisses, jusqu'au plus petit pincement au cœur que ressent son personnage principal. Guido Guerrieri est hanté tout le long du roman car il a une haute idée de la justice et de son métier. On sent bien que l'auteur est pareil, c'est évident. Et il essaie à tout prix de tracer le bon chemin, aussi bien le personnage que l'auteur, au prix de son bien-être physique et même psychologique. Le deuxième tour de force du roman, c'est de transformer un polar que l'on appelle un polar dit légaliste, qui explique les procédures judiciaires. Ce sont des romans souvent un petit peu longués, un petit peu, comment on va dire, peut-être un petit peu ennuyeux, un petit peu fastidieux.
Verbeux,
voilà. Et bien là, on a un thriller d'une efficacité redoutable qu'on ne peut lâcher. Je pense qu'on vous aurait compris, j'adore ce bouquin. Et je dois dire que si Caro Figlio est aussi doué en tant que juge qu'en tant qu'écrivain, la mafia a bien du souci à se faire.
Ceci dit, j'ai l'impression qu'elle a de bonnes capacités aussi, cette brave mafia.
Oui, tout à fait. Alors donc, je rappelle une traduction, très belle traduction, je pense, de Nathalie Bower.
Qui n'est pas la femme de Jack.
Non. Merci de la précision. D'un livre de Gianrico Caro Figlio, Les raisons du doute, ça vient de paraître chez Seuil Policier. Vous pouvez retrouver d'autres romans de Gianrico,
mais
là chez
Rivage.
Voilà. Rivage noir ou Rivage thriller.
Ah donc, avant de retourner en Italie avec un prochain livre, on va mettre un musicien italien, un pianiste, puisque le roman suivant parlera d'un pianiste. Le pianiste s'appelle Stefano Bolani. Il est italien, mais la chanson qu'il va interpréter est une chanson d'un compositeur, d'un des grands compositeurs américains contemporains.
C'est pour ça que le titre est en anglais.
Voilà, la chanson s'appelle Let's Move to Cleveland et le compositeur, bien sûr, c'est Frank Zappa. Thank you.
Quelle fin
brutale.
Quel joli toucher de piano. Voilà, donc Stefano Bolani interprétant Frank Zappa. Je viens de quitter un juge anti-mafia et nous allons immédiatement nous replonger dans un livre qui parle de la mafia.
Voilà, tout à fait. C'est un livre de monsieur Alfio Caruso.
Qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout marié avec monsieur Caruso.
Voilà. Le roman s'appelle Willy Melodia. Il est publié aux éditions Liana Levi. Il est traduit de l'italien par Madame Fanchita González Bartel. Et il vaut 23 euros, mais il fait 600 pages. Ce roman, c'est l'autobiographie fictive de Willy Melodia, donc, comme le titre l'indique. Ce monsieur, il est né au début du siècle à Catane, en Sicile, dans une famille très très pauvre. Et il voulait devenir spadassin. Parce que sa mère lui racontait des histoires avant de dormir. Mais en fait, c'est à l'église qu'il découvre qu'il a un talent assez fort. C'est qu'il est capable de jouer n'importe quelle mélodie dès qu'il vient de l'entendre. En fait, il a l'oreille absolue et le talent des doigts. Vers 8-10 ans, il découvre donc le piano, la musique. Et pour rendre service, il va jouer pour les fêtes, les mariages, chez les gens influents de son village, de sa petite ville, Catane. C'était une petite ville à l'époque, c'était pas la deuxième ville de Sicile. Mais bien sûr, en Sicile, les gens influents, même s'ils n'en portent pas le nom, c'est la Cosa Nostra. Et la Cosa Nostra, c'était déjà à l'époque bel et bien la mafia, tu en parlais.
Oui, puisqu'on sait que dès le début du XXe siècle, ils étaient déjà très très bien installés.
Et la mafia, évidemment, dès que tu y mets un doigt, eh ben, tu y mets le coude et puis tout le reste ensuite.
Alors
et
les 10 doigts d'un pianiste.
Voilà, et donc en fait, lui, à force de rendre des services, et on lui rend des services, et il va rentrer un peu dans la mafia, mais comme pianiste en fait. Il va aussi découvrir un autre de ses talents, c'est qu'il a un pouvoir de séduction quasi inné sur les femmes. Et
c'est merveilleux.
Voilà, donc les trois composantes en fait de la vie de Willy Melodia, la mafia, les femmes, la musique. Et on va passer de Catane à Taormina, puis, pour diverses histoires de mafia, l'exil, d'abord la Tunisie, puis les États-Unis, Chicago, New York, la Nouvelle-Orléans, et de nouveau New York. Petit à petit, donc il va devenir un pianiste de bar, pianiste de resto. Le personnage, il est là, derrière le piano, il entend tout, on le voit presque pas. Mais il peut rien dire non plus parce qu'il peut pas partir de ce milieu. Je le disais, quand on a mis la main, on peut pas. Si on s'en va, on laisse tout le reste. Et c'est amusant, c'est que l'équipe est plutôt sympathique. Et pourtant, c'est des mafieux. Et les mafieux, c'est quand même Lucky Luciano. Et c'était pas le moindre des mafieux. Alors lui, il travaille dans le restaurant de Frank Costello, qui était le lieutenant de.
Le grand-père d'Elvis.
Voilà. Le lieutenant de Lucky Luciano. Et dans ce roman, ce qui est super bien, c'est qu'on va rencontrer Joe, Jack et Bob Kennedy. Mais avant un petit peu, on va rencontrer Roosevelt en fait, parce que c'est tous les Italiens de New York qui ont fait un petit peu l'élection de Roosevelt, parce qu'il s'était pas si bien parti que ça pour lui. Donc il paraît-il que ça aurait été un petit peu acheté. Donc,
il
donne le nombre de cents de voix par voix et ça a fini par faire une belle somme et une élection. On va même rencontrer Sinatra. D'ailleurs, Willy Melodia.
Oui.
Willy Melodia, pardon, fait passer une audition à Sinatra.
Oui, parce qu'il devait quand même être bien jeune.
Voilà, il était tout jeune. Voilà, il n'était pas du tout connu. Il fait passer une audition et il dit d'ailleurs, oh, celui-là, il aura du succès, cet homme, comme quoi.
Ça, c'est facile. Hein, c'est facile. Début du XXIe siècle, en fait, pas dur. Hein.
On a une vue de l'Amérique. Bon, une certaine Amérique, celle des mafieux, c'est sûr. Mais ça ressemble un petit peu à deux romans dont on vous a parlé déjà, donc les romans de Elroy.
Oui.
Et surtout le roman de Ellory.
Oui, de R.J. Ellory qui s'appelle Vendetta.
Voilà, qui racontait aussi sa vision de la mafia. Et donc, c'est vraiment très très bien. Alors on voit aussi évidemment quand les mafieux sont Mussolini à fond, puis tout d'un coup ils lâchent Mussolini pour traiter avec les services secrets américains, pour les aider à débarquer, puis pour prendre la main sur la Sicile. Au nom de. Voilà. C'est vraiment magnifique. L'auteur, lui, est aussi de Catane. C'est un journaliste à La Stampa et à Corriere della Sera. Il sait de quoi il parle à propos de Cosa Nostra, parce qu'il a écrit apparemment une histoire de la Cosa Nostra qui fait référence en Italie. C'est vraiment un roman...
Et donc, il a réussi, je fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais en tant que journaliste et après avoir écrit un livre documentaire, en fait, il arrive à faire un roman qui tient la route au niveau de la narration.
Tout à fait, parce qu'en fait, du coup, c'est la biographie, c'est raconté en grande partie par le Willy Melodia en question, puisque c'est donc une autobiographie, c'est au début une fausse.
Une narration.
Et donc, en fait, c'est assez intéressant. Donc, il y a la vie à fois dans New York, à Catane à l'époque, et c'est vraiment, c'est assez passionnant. Alors c'est pas vraiment c'est pas un roman parce que bon c'est une biographie donc
Mais il y a une vision quand même.
Mais il y a une vision et puis il y a c'est plein de petites anecdotes qui sont vraiment passionnantes. On lit ça comme ça 600 pages mais très très rapidement.
Donc on va reciter le nom de l'auteur.
Alfio Caruso. Le roman s'appelle Willy Melodia et il est paru aux éditions Liana Levy.
Liana Levy. Donc moi, il me reste juste quelques minutes pour évoquer, je ne vais pas en parler longuement, d'un roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai quelques petites réserves. C'est un roman de Deon Meyer et ça s'appelle 13 heures. Deon Meyer, c'est un auteur sud-africain, d'Afrique du Sud, que nous avions découvert avec des livres qui décrivaient l'Afrique du Sud aussi bien géographiquement que géopolitiquement après l'apartheid d'une manière magnifique. Je cite trois titres précédents jusqu'au dernier, Les soldats de l'aube et un qui m'avait vraiment enthousiasmé, L'âme du chasseur. Là, c'est un bon roman, ça parle toujours de l'Afrique du Sud, mais on est dans un roman noir thriller plus classique. Ça s'appelle 13 heures parce que toute la narration, ça commence à 5 heures du matin, ça s'arrête à 18 heures. Y aurait-il un petit côté 24 heures du feuilleton américain? Je ne sais pas si s'en est inspiré.
Jacques Breuer, dont on parlait tout à l'heure.
Dont on parlait tout à l'heure. On va suivre un flic Grissel au cours de deux enquêtes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Grissel, il est en train de former les nouveaux flics noir qui arrive dans la police. C'est la fin de l'apartheid, enfin l'apartheid est terminé même depuis quelques années et il faut des flics noirs dans la police, mais ça se passe pas si bien que ça. Et puis il y a affrontement entre les différentes factions noires et donc il va enquêter rapidement en 13 heures et d'une manière complètement haletante et folle sur deux enquêtes. Premièrement, l'assassinat d'un homme qu'on découvre plusieurs balles dans le corps. Sa femme se réveille. Sa femme, c'est une ancienne star de la chanson d'Afrique du Sud et actuellement complètement alcoolique et elle se souvient même plus si elle a tué son mari. Ceci dit, Grissel, le flic, a tendance à la croire innocente. Peut-être parce qu'il est, il est en train de se sevrer d'alcool et il sait bien de quoi elle souffre. Et une autre histoire complètement haletante, on découvre une jeune fille, une jeune américaine, une touriste assassinée. Sa copine a pris la fuite. Les tueurs sont à ses trousses. Est-ce que les tueurs vont arriver avant la police? Et surtout, la police veut comprendre pourquoi ces tueurs sont au basque de cette jeune américaine. On suit donc la fuite éperdue de l'américaine et l'enquête. Voilà, c'est bien, même si je pense que c'est un petit peu en deçà de ceux que je vous ai cités. On a toujours ce panorama de l'Afrique du Sud derrière qui est très très intéressant, cette idée de décrire l'après-apartheid qui n'est pas si bien que ça malgré tout. Voilà, Deon Meyer, c'est chez Seuil Policier, ça s'appelle 13 heures. Voilà, on vous quitte. Bonne lecture et à la prochaine fois.
Au revoir.
Agora vous donne l'heure. 19h.